7h30, le journal Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. La fin de la double peine pour les anciens malades du cancer. Le Parlement doit approuver définitivement aujourd'hui la réduction du délai du droit à l'oubli. 5 ans au lieu de 10. Les patients l'attendaient depuis longtemps. Eux qui payent aujourd'hui 10 fois plus cher leur prime d'assurance. Témoignage dès le début de ce journal. Sur la route de la présidentielle, la semaine difficile de Marine Le Pen. Nicolas Bay officialise ce matin son ralliement à Éric Zemmour. Et dans quelques heures, la candidate du RN va devoir détailler ses propositions pour les retraites après quelques inflexions ces dernières semaines. On va vous expliquer. Au sommaire aussi, la Russie accusée de mensonges sur le retrait partiel de ses troupes près de l'Ukraine. Et puis viens, je t'emmène au vent, Jérôme. Nous fêterons les 25 ans de Louise Attaque.
Que de souvenirs. Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le rappeur et acteur Sofiane Zermani, alias Fianso, qui incarne Gatsby le Magnifique au Théâtre du Châtelet à Paris. Jusqu'au 20 février.
France Inter.
C'est la fin d'une double peine pour les malades du cancer.
Après un accord député-sénateur et avec un dernier vote du Sénat aujourd'hui, le Parlement va donc approuver définitivement la réduction du délai du droit à l'oubli pour contracter une assurance emprunteur. Les anciens malades n'auront plus à attendre 10 ans, mais seulement 5 pour ne plus être obligés de signaler leur passé médical. Les associations de patients le réclamaient depuis des années, car les conséquences étaient pour eux très lourdes, comme vous allez l'entendre avec le témoignage de Céline. C'est Véronique Julia qui l'a rencontrée.
Céline était une jeune maman de 32 ans quand le diagnostic est tombé en septembre 2016. Cancer du sein triple négatif, un cancer très agressif dont le traitement se termine en mars 2017. On lui dit à l'époque que les 3 années qui vont suivre sont décisives. 3 ans après, en 2020, pas de rechute, Céline attend un deuxième enfant et souhaite déménager pour entamer une nouvelle vie. Avec son mari, ils veulent construire une maison, il faut un prêt sur 20 ans et là, impossible de souscrire une assurance, Céline n'essuie que des refus. Un seul assureur finit par accepter, mais à quel prix?
La cotisation standard pour cette assurance était une 50 € par mois, quand moi on me proposait plus de 550 € par mois. C'est x10. Voilà, donc c'est un peu la douche froide quand on reçoit ça. Donc du coup, je ne suis assurée qu'à 50% sur le prêt de la maison, ce qui nous permet de réduire de 50% la cotisation. Et là, ça rentre dans notre budget et on a pu mener le projet à bien. Mais je suis moins bien assurée que je ne l'aurais voulu. C'est une double peine et puis c'est douloureux de revivre ça sans cesse en fait.
Pour Céline et son mari, le surcoût reste quand même très élevé. Le droit à l'oubli raccourci à 5 ans devrait donc lui permettre de renégocier, cette fois en s'appuyant sur un texte de loi. Ses médecins lui disent aujourd'hui qu'au-delà de 5 ans, son risque d'avoir un cancer n'est pas plus élevé que n'importe quelle jeune femme de son âge.
Reportage Véronique Julia, avant que les parlementaires n'approuvent donc définitivement aujourd'hui ce droit à l'oubli raccourci pour les ex-malades du cancer, mais aussi les ex-malades de l'hépatite C. Le Parlement, qu'on a trop tendance à confondre avec une simple chambre d'enregistrement, c'est une figure de LREM au Palais Bourbon qui le dit ce matin. Hugues Granson, vice-président de l'Assemblée, annonce qu'il ne se représentera pas aux législatives, notamment parce qu'il dit douter du projet de la majorité. Lui n'a pas attendu longtemps après sa suspension du RN. Nicolas Bay officialise ce matin son ralliement à Éric Zemmour, interview au Figaro. Et au passage, il ne ménage pas Marine Le Pen, accusée notamment de reculades et de revirements. Et en voilà un, justement, de revirements récents, ou en tout cas d'inflexion de la candidate du Rassemblement National. La retraite à 60 ans, c'est l'une de ses propositions phares. Elle y consacre ce matin une conférence de presse à son siège de campagne. Bonjour Yaël Gauze.
Bonjour.
Marine Le Pen est déjà un peu revenue sur cette mesure. En fait, c'est 60 ans pour ceux qui ont travaillé avant l'âge de 20 ans.
Oui, sur son site de campagne Aime la France, il faut lire entre les lignes. C'est la proposition numéro 9, garantir à nos aînés une retraite sereine et digne. Pas d'allongement de l'âge de départ. Et ceux qui ont travaillé avant 20 ans et pendant 40 annuités partent à 60. Mais ça veut dire aussi que 60 ans, ça n'a plus rien d'automatique pour tous. Marine Le Pen va faire entrer dans sa réforme des critères de progressivité qu'elle va devoir préciser. Si on n'a pas travaillé avant 20 ans, est-ce que l'âge légal c'est 60 ou 62 ans? Un changement pour être budgétairement plus crédible, car en interne, la mesure extrêmement coûteuse était critiquée. Bercy la chiffre à 40 milliards d'euros par an, promesse susceptible de faire fuir les électeurs de droite. La candidate qui subit des défections en série n'a pas besoin de ça en ce moment.
Et si on élargit un peu le regard, Yaël, que disent là-dessus les autres candidats? La question de l'âge légal de départ à la retraite, c'est un enjeu électoral majeur, on le sait, et les réponses sont très diverses.
Oui, Éric Zemmour veut monter à 64. 64 ans, 65 ans chez Valérie Pécresse, mais en 2030, en tenant compte de la pénibilité, avec une pension égale au SMIC net pour ceux qui ont cotisé toute leur vie. À gauche, Yannick Jadot et Anne Hidalgo disent à peu près la même chose. On ne touche pas aux 62 ans d'âge légal et aux 43 annuités, mais on réintroduit de nouveaux critères de pénibilité. 60 ans et 37 annuités et demie chez le communiste Fabien Roussel, 60 ans et 40 annuités du côté de Jean-Luc Mélenchon. Et Emmanuel Macron dans tout ça, si l'on s'en tient à ses propos de président tenus à l'automne, l'âge légal serait relevé au-delà de 62 ans, 1000 euros minimum de retraite pour les carrières complètes, la fin des régimes spéciaux, une réforme davantage paramétrique que systémique, la reprise d'un chantier abandonné en 2020 pour cause de Covid.
Les candidats à la présidentielle face à la réforme des retraites, c'était Yaël Gauz, chef du service politique d'Inter. Après 3 semaines d'audience, parfois éprouvantes, avant-dernier jour au procès de Nordal-Lelandais à Grenoble, avec aujourd'hui les plaidoiries de la défense et les réquisitions. Hier, l'avocat de la famille de Maëlys a plaidé pendant plus de 2 heures. Vous l'avez arraché à la vie, a lancé Fabien Rajon à l'accusé. Aujourd'hui, il attend beaucoup justement de l'accusation.
Nous attendons de la lucidité et de la fermeté. De la lucidité quant à la personnalité de Nordal-Lelandais et quant au fait que cet individu est particulièrement dangereux. Et on attend également une fermeté, non pas dans un esprit de vengeance ou dans une espèce de loi du talion, mais parce qu'il en va de la protection des intérêts de la société. J'ai posé à la cour d'assises une question. Je leur ai dit, quand souhaitez-vous que Nordal-Lelandais aille rôder autour d'une boîte de nuit à Chambéry? Quand voulez-vous que Nordal-Lelandais aille tourner autour d'une école maternelle? Quand voulez-vous que Nordal-Lelandais aille tourner aux abords d'un collège? Voilà l'enjeu de la peine, ni plus ni moins, au regard des actes, au regard des crimes commis par Nordal-Lelandais.
Maître Fabien Rajon, l'avocat de la mère de Maëlys, le verdict est attendu demain à Grenoble. Ils réclament aussi des hausses de salaire. Les surveillants pénitentiaires se mobilisent ce matin devant des prisons un peu partout en France. Une centaine d'actions sont déjà en cours depuis 6 heures, selon Wilfried Fonck, secrétaire national de l'UFAP UNSA Justice.
Des personnels qui bloquent physiquement l'accès aux établissements, c'est-à-dire que toute entrée et toute sortie sont impossibles ce matin. L'objectif, c'est que les personnels puissent montrer non seulement leur mécontentement, mais surtout leur colère vis-à-vis du manque de respect que peut avoir aujourd'hui le garde des Sceaux à leur égard.
Le secrétaire national de l'UFAP, UNSA Justice sur France Info ce matin. Demain, c'est le personnel de la RATP en région parisienne qui est à son tour appelé à cesser le travail pour des augmentations salariales. La grève s'annonce massive dans les transports franciliens. On y revient en détail à 8h.
La conférence de presse est prévue à 9h à l'Elysée.
Et Emmanuel Macron devrait officialiser ce matin le retrait des troupes françaises du Mali, la fin de 9 ans d'intervention armée contre les djihadistes dans ce pays. Annonce attendue avant un sommet Europe-Afrique à partir de cet après-midi à Bruxelles. Nous savons désormais que c'était faux. La Maison-Blanche douche les espoirs de désescalade dans la crise ukrainienne. Washington accuse la Russie de mentir sur le retrait partiel de ses troupes massées autour de l'Ukraine. L'entourage de Joe Biden affirme même que Moscou vient de rajouter des soldats, 7000 militaires de plus ces dernières heures. Une invasion militaire russe n'est encore qu'une hypothèse, mais une autre forme de conflit a déjà bien commencé dans le pays. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride, Éric Biegala.
La guerre hybride, elle passe d'abord par les attaques cyber. La dernière en date, celle de mardi, a visé les infrastructures informatiques des forces armées et les services de 2 banques. Mais pour Maria Avdeeva, directeur de recherche au cercle de réflexion ukrainien European Expert Association, le pire est sans doute à venir. Le pire, en fait, serait une cyberattaque visant les réseaux de téléphonie. Personne n'aurait plus aucun moyen de communiquer dans le pays. Mais la guerre hybride, c'est aussi une bonne vieille bataille de propagande au travers des réseaux sociaux, notamment comme des articles de presse. Et en la matière, la Russie a réinventé son angle d'attaque avec un certain succès, note l'universitaire Volodymyr Yermalenko, analyste des discours de propagande pour l'ONG Internews Ukraine.
Si on fait la propagande pro-russe qui va dire que l'Ukraine doit faire l'union avec Moscou, avec Poutine, etc., ça ne marche pas en Ukraine. La rhétorique principale, c'est le narratif de la soi-disant gouvernement extérieur, que l'Ukraine est sur la gouvernance extérieure de l'Occident. Ça, ça marche assez bien avec les Ukrainiens, malheureusement.
Selon un récent sondage, en effet, un tiers des Ukrainiens se disent convaincus que leur propre pays est sous le contrôle indirect des États-Unis. Beau succès de propagande pour Vladimir Poutine.
Éric Biegala, envoyé spécial de France Inter en Ukraine. Au Canada, 20e jour de blocage à Ottawa contre les mesures sanitaires. La police lance un ultimatum aux chauffeurs routiers. Elle vient de leur distribuer des tracts sur lesquels on peut lire « Vous devez quitter les lieux maintenant ». Les forces de l'ordre menacent de confisquer leurs véhicules et d'annuler les permis de conduire.
Et un petit plaisir pour finir ce journal, le 25e anniversaire d'un album devenu mythique.
Oui, le premier album de Louise Attaque. C'était au printemps 97 avec des morceaux inoubliables. Près de 3 millions d'exemplaires vendus. Et on ne résiste pas à l'envie, Jérôme, de se replonger dans ces airs entêtants. Grâce à Mathieu Culeron, vous les aurez dans la tête toute la journée.
Eh bien, je t'emmène au vent.
Alors qu'il est peu joué par les radios de l'époque, le premier album de Louise Attaque termine disque d'or à la fin de l'année 1997. En quelques mois, les titres L'Invitation ou Je t'emmène au vent deviennent des hymnes. Gaëtan Roussel a une vingtaine d'années.
Ce qu'on avait avec nous, c'est des choix d'instruments, des sonorités plutôt acoustiques au milieu de plutôt du rock électrique ou alors de Daft Punk ou alors d'NTM. Et nous, on avait fait ce choix-là de plutôt instruments acoustiques. Ce disque, on nous a dit qu'aujourd'hui, il s'était vendu à 2 700 000 exemplaires. Il reste pas trop loin des gens, voire dans le cœur des gens, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux.
Parmi les repères du son de Louise Attaque, il y a le violon. Derrière l'instrument, Arnaud Samuel.
Moi, j'étais influencé pour la petite histoire par une violoniste qui avait travaillé sur l'album de Bob Dylan, Desire. Et en effet, quand j'ai rencontré mes camarades avec qui on a formé Louise Attaque, c'était une sonorité qui leur plaisait aussi également, avec le Velvet aussi, dont ils étaient très friands.
Louise Attaque, qui pour fêter le quart de siècle de son premier album, prépare une surprise de taille.
Ça va être un plaisir de fêter ses 25 ans. Surprise arrive à 10h. Un petit indice, on est arrivé par la scène. Voilà, gaieté.
Louise Attaque a retrouvé quelque part, sur scène, et dans une réédition de luxe, avec des lives inédits.
Et vous l'entendiez, rendez-vous donc à 10h sur les réseaux sociaux de Louise Attaque. Le groupe doit annoncer où se tiendront les concerts surprises de ce 25e anniversaire.
Merci Alexis Morel pour ce bain de jouvence. L'édito politique à suivre.